Il est des sociétés vivantes où les femmes règnent, où elles sont en grand nombre, très solidaires, inépuisables, qui plus est de taille extrêmement réduite, et où les hommes meurent juste après la reproduction. Ce sont les fourmis. Il est des personnes qui marient avec intelligence, science, philosophie, histoire, biologie, mythologie, polar et science-fiction. Ce sont les écrivains. Parfois, les deux se rencontrent. Et cela donne l'un des auteurs français les plus lus dans le monde. 20 millions d'exemplaires. 20 millions. Cet auteur est aujourd'hui en face de moi et dans sa dernière création romanesque, il suggère que l'homme va se fourminiser, autrement dit réduire de taille, se montrer plus résistant, devenir une société de femmes et se socialiser d'une manière inédite. Bonjour Bernard Werber.
Bonjour.
La série s'appelle Troisième Humanité chez Albin Michel. Le deuxième tome, Les Micro-Humains, est sorti en octobre dernier. Le prochain est prévu pour octobre prochain donc.
Oui.
Vous avez déjà le titre ?
Oui, depuis hier, c'est un... Il est sûr, c'est la voix de la Terre, parce qu'en effet, l'un des personnages, c'est la Terre elle-même qui raconte comment les espèces prolifèrent sur sa surface.
Et déjà dans celui-là et dans le précédent, voilà. la Terre intervient, elle parle, elle existe.
Là, c'est vraiment le personnage principal, dans la mesure où on comprend qu'en fait, depuis le début, nous sommes une expérience de la Terre. C'est-à-dire la Terre, nous sommes ces petits parasites, et en même temps, elle s'amuse de nous voir, elle nous suit. Elle n'a pas de projet... Elle a des projets sur nous, mais elle n'a pas les mêmes angoisses que nous. Nous, on a l'impression que les écolos sont les seuls qui ont le droit de parler de la Terre, mais non, en fait, la Terre, elle a d'autres soucis que l'écologie.
C'est un peu un retour aux sources. Dans ma petite parabole avec les fourmis, vous revenez, l'humain devient fourmi en quelque sorte.
Oui, alors, il faut voir que l'humain, tout simplement, c'est une espèce qui a 7 millions d'années au maximum, et que les fourmis, ça a 120 millions d'années. Donc, il est logique que nous fassions un peu le même cheminement qu'une espèce plus ancienne qui, depuis 120 millions d'années, construit des cités, fait l'agriculture, fait la guerre, et s'amuse sur la planète. Et en tout cas, elle mérite d'avoir survécu autant de temps.
Est-ce que vous pensez vraiment que l'homme se dirige vers ce que vous écrivez, ces micro-humains Qui sont ces micro-humains? Présentez-les-nous.
Alors, je réponds d'abord à la première question, c'est, je crois que, naturellement, quand il y a des problèmes, une espèce devient plus petite et plus féminine. Ça, on le voit, il y a eu 5 grandes extinctions sur la planète, et à chaque fois, on a vu des espèces réduire de taille et devenir plus féminines. Donc, c'est juste une observation du passé, et je me dis, si ça s'est passé en arrière, ça risque de passer de manière similaire en avant. Voilà, c'est juste une intuition d'observateur avec un peu de recul. Maintenant, votre deuxième question, c'était
Est-ce qu'on va devenir ça, nous? C'est-à-dire, alors ça, c'était, oui, c'est ce que vous voulez dire, mais qui sont ces micro-humains? Présentez-les-nous, du coup.
Alors, j'ai deux héros, qui s'appellent David et Aurore, qui vont mettre au point une espèce d'humain plus petit, qui font 17 cm, donc 10 fois plus petit. Alors, il faut savoir que ça a l'air complètement délirant, mais actuellement, on sait réduire la taille des espèces. Par exemple, vous savez, il y a ces chevaux qu'on arrive à faire des tout petits chevaux de 20 cm qu'on peut tenir dans les bras comme des petits chiens. On arrive à réduire toutes les espèces, en fait. Donc, c'est une manipulation génétique qu'on sait faire. Donc, par contre, on ne penserait pas à le faire sur l'homme. On voit pas l'intérêt de faire des petits hommes.
Ah ben si, parce que dans votre idée, ça devient presque des objets. D'ailleurs, c'est la polémique au cœur du dernier roman. Voilà. Sont-ils des objets? Sont-ils des hommes? Quel est leur statut? Alors, on a la même question dans l'actualité avec les animaux aujourd'hui.
Exactement.
Question qui se pose. Et ce sont des petits personnages qui peuvent faire plein de choses que l'homme ne peut pas faire. Vont se révolter.
Alors déjà, ils sont plus précis dans leurs gestes, parce qu'ils ont des toutes petites mains, puis ils peuvent s'infiltrer, par exemple, pour aller sauver les mineurs chiliens qui étaient coincés, là où l'homme ne peut pas passer, le micro-humain peut passer. Et l'intérêt, en fait, c'est peut-être de faire une espèce qui soit plus résistante à la pollution, aux radiations, à tous les problèmes du futur que nous. Si on regarde l'évolution, par exemple... les reptiles, on sait que les dinosaures sont transformés en lézards, les mammouths sont transformés en éléphants, les tigres sont transformés en chats, les loups sont transformés en chihuahuas. L'évolution va vers un rapetissement des espèces. Il semble que ça soit le choix que fait Mère Nature. Quand une espèce lui pose des problèmes, elle la réduit de taille. Elle la fait taire en la réduisant. Nous réduisons nous-mêmes, peut-être que nous anticipons les désirs de la planète.
Bernard Werber, vous flirtez toujours avec la spiritualité, la réincarnation, les extraterrestres. Est-ce qu'il y a une voie entre l'idée d'un monde officiel où tout est expliqué et puis celle d'un monde irrationnel où on passe pour un fou quand on en parle?
Alors, j'essaie d'être le plus rationnel possible, j'essaie de me baser sur la science et de ne pas trop dériver, parce que si je me lance dans un délire, tout est autorisé, donc à ce moment-là, il n'y a plus de référence. Quand je parle des micro-humains, c'est un futur possible. Quand je parle des expériences de troisième humanité, ce sont toutes des expériences qu'on peut faire ou qui vont se produire. Je suis un ancien journaliste scientifique et je crois que plus c'est vrai, plus c'est magique. Les fourmis, à l'époque, quand j'ai écrit les fourmis, je me suis dit, je ne vais pas faire des faits magiques, je vais être juste dans l'inscription du réel. Je crois qu'il existe un territoire merveilleux qui est pas de la science-fiction, qui n'est pas du fantastique, que j'appelle la philosophie-fiction, qui est juste une manière de dire « et si ?» et on fait un petit dérivé dans le futur de choses qui existent déjà actuellement.
Donc on se faufile entre le rationnel et l'irrationnel en
voilà,
quelque sorte.
Voilà, mais en restant crédible et vraisemblable, parce que c'est comme ça qu'on touche les gens et qu'on a l'émotion.
Et vous cherchez toujours à avoir le regard possible d'autre chose. D'ailleurs, votre film Nos Amis les Terriens se place par exemple dans le regard d'extraterrestres sur nous, les Terriens. Un extrait.
Les Terriens, ne sachant pas communiquer par télépathie, disposent de plusieurs systèmes de communication primitifs. Tout d'abord, la communication par les odeurs. Ils émettent des parfums par les touffes de poils situées sous leurs aisselles, ainsi qu'autour de leur sexe. Lorsque les odeurs de leurs proches ne leur conviennent pas, ils allument des tubes d'herbe sèche dont ils soufflent violemment la fumée pour repousser les messages olfactifs inintéressants. Mais de tous les modes de communication, le plus nuancé et le plus mélodieux est le son. Celui-ci sort par l'orifice buccal qui, décidément, est multifonction. Les Terriens adorent piailler du matin jusqu'au soir.
Voilà, on piaille, on va continuer à piailler, Bernard Werber, extrait de ce film qui se finit sur cette phrase, votre film, « La rencontre avec les extraterrestres sera inévitable ».
Je l'espère.
Enfin, ce sont eux qui le disent. Eux, ils disent la rencontre avec les Terriens sera inévitable.
Voilà. La pire chose qui puisse arriver, c'est qu'il n'y ait pas d'extraterrestres et que nous soyons seuls sur cette planète qui elle-même soit le seul endroit où il y ait de la vie.
Ah, vous doutez, vous ne savez pas encore, vous hésitez.
Ah, c'est pas que je sais pas, il y a deux choix.
Moi, j'étais persuadé que vous croyez aux extraterrestres.
Non, il y a que deux choix et les deux sont terrifiants. Le premier, c'est qu'il y a des extraterrestres et le deuxième, c'est qu'il n'y en ait pas. Mais des deux, celui qui me fait le plus peur, c'est qu'il n'y en ait pas. Donc c'est pour ça que j'ai fait un film d'espoir, pourvu qu'il y en ait.
Vous avez des détracteurs qui crient à l'arnaque parce que vos théories ne seraient pas étayées, vous avez déjà répondu. Vous avez des admirateurs qui crient au génie et qui vous comparent à Jules Verne. Vous-même, comment vous vous voyez?
Je me vois comme un artisan qui essaie de faire la plus jolie histoire qui fasse que les gens oublient leur quotidien et rêvent du futur. Mais je n'ai aucune prétention d'être un scientifique, donc évidemment, il n'y a pas de... Je n'ai rien à prouver. Par contre, l'idée, c'est d'ouvrir des horizons. Je crois que le travail d'un bon écrivain est de faire qu'à la fin du livre, le lecteur se pose de nouvelles questions et a un sourire et envie lui-même d'entreprendre des choses pour ne plus être passif, mais rentrer dans l'histoire de son espèce.
Est-ce que les hommes comprendront un jour les âmes?
Ah, c'est le clip avec Morane, je l'espère. En tout cas, c'est sûr que le prochain siècle, non seulement sera spirituel, mais sera celui où on commencera à parler des âmes et non plus juste des corps.
Pour les âmes, pour les hommes, effectivement, la chanson de Morane que vous m'avez demandé, dont vous avez réalisé le clip vidéo.
Enfant, je pense à vous avec un goût amer. Mon sang a pris des coups, je suis tout à l'envers.
Pour les âmes, pour les hommes, la chanson de Morane. Le clip, vous l'avez réalisé comment? Il y a beaucoup d'images de synthèse.
Oui, beaucoup d'images de synthèse. C'était l'idée de faire des enfants qui courent vers la lumière. Morane est un être fabuleux qui dégage une énergie, une chaleur extraordinaire. Et quand je l'ai filmé, je me suis aperçu que c'est encore plus fort. C'est-à-dire, dès le moment où on regarde dans l'objectif, on sent l'énergie qu'elle dégage. Vous savez, les gens... Il y a tellement de chanteurs, ceux qui arrivent à sortir du lot, c'est qu'ils ont un petit plus, et c'est ce supplément d'âme dont bénéficie Morane. Justement.
Bernard Werber, en votre compagnie tout au long de cette demi-heure.
Bernard Thomasson.
Rencontre avec Bernard Werber pour ses livres « Troisième humanité » chez Albin Michel. Avant d'en reparler, votre deuxième choix musical, « Les Dunes d'Ota », un duo un peu déjanté qui croit venir d'une autre planète, on en parlait justement.
Fire!
Dune Dota. D'où les sortez-vous?
C'est une rencontre par hasard. Des amis qui m'ont dit, tiens, va voir, ils sont complètement fous, ça devrait te plaire.
Je crois qu'il y a un qui est habillé en scaphandrier, voilà, enfin, en astronaute.
Il est en astronaute et ils ont une musique qui me fait penser un peu aux Talking Heads de ma jeunesse. Et c'est français et c'est excellent. Et sur scène, ça déchire bien. Et du coup, j'ai fini par rencontrer Pierre Dugofson, qui est le créateur un peu de ce groupe. Et c'est un type passionnant. Et on a des grandes discussions. Voilà.
Est-ce que c'est vrai pour votre livre que vous avez créé le personnage Emma 109, qui est un peu l'héroïne, la micro-humain qui se rebelle, sur le modèle de Emma Peel, l'héroïne de Chapeau melon et bottes de cuir?
Oui, c'est un fantasme de jeunesse. Quand j'ai vu Diana Rigg, je me suis dit, waouh, c'est la plus belle femme du monde. Je suis tombé amoureux, vous savez, je vais avoir 10 ans, de cette actrice. Et du coup, le prénom Emma et Emma Peel, vous savez qu'il y a un jeu de mots, ça veut dire men à Peel, l'accroche des hommes, quoi, voilà. J'adorais cette série, mais la série, je l'ai étudiée en long, en large, j'ai fabriqué des feuilletons, je trouve que c'est, à cette époque-là, ils s'amusaient bien dans les séries, maintenant ils sont un peu plus frileux, surtout les séries françaises où on n'ose pas trop aller loin.
Chez vous aussi, il y a un jeu de mots avec Emma.
Emma 109, voilà.
Emma, non mais entre le M et le A.
Oui, avec c'est Aurore, micro, voilà. Oui, micro Aurore, c'est le premier truc. Oui, j'essaie de faire des sens cachés partout.
Toujours, oui, dans les subtilités, les rappels, les renvois.
Disons, j'ai un souci, c'est que si les gens ont aimé le livre et qu'ils ont envie de le relire, j'ai envie qu'ils trouvent d'autres choses qu'ils n'avaient pas lues à la première lecture. Donc c'est ça que, donc après je rajoute des tas de petits clins d'œil et qui vivra verra, ceux qui veulent observer découvriront des choses.
On parle d'Emma, vous étiez amoureux d'Emma Peel à 10 ans. Quelle place ont les femmes pour vous dans votre vie?
Ben très, énorme. Quand j'étais petit, j'étais tout le temps avec les filles en train de discuter parce que j'avais un plus grand plaisir à discuter avec les filles. C'est peut-être de là que m'est venue l'idée de ce futur où il y a de plus en plus de femmes et où les femmes ont de plus en plus de pouvoir. Les femmes, je crois que je n'existe que par le regard des femmes. Le premier regard a été le regard de ma mère et après de mes compagnes et puis
de vos lectrices maintenant.
De mes lectrices.
Je sais que vous avez une histoire d'amour avec une lectrice, vous l'avez dit publiquement, donc.
Oui, j'ai vécu 3 ans avec une jeune fille qui est venue un jour, qui m'a dit, c'est mon anniversaire, j'aimerais que vous soyez mon cadeau. Et elle avait une énergie.
Pas banal,
qui...
hein.
Oui, c'était pas banal, mais en même temps, c'était bien fait. Parce que si c'est mal fait, ça peut être insupportable
lourd,
aussi, ouais. Voilà. Et là, c'était fait avec humour et oui, non, c'est l'avantage de d'écrire des histoires, c'est qu'on est nourri du réel pour en créer d'autres histoires. Donc j'ai mis des petits bouts de cette histoire dans plein de mes romans.
Vous inventez dans cette saga une société de femmes, est-ce que ça veut dire que vous auriez vous-même aimé être une femme, peut-être?
Je pense que j'ai dû l'être dans d'autres vies, donc ça m'a laissé des souvenirs. Ce qui est bien quand on est un homme, c'est qu'on découvre les femmes. Je crois que le statut des femmes actuellement est très difficile. Je trouve qu'elles ont des enjeux terribles. Elles doivent travailler, elles doivent en même temps être des mères, elles doivent être des amantes. C'est elles qui ont la partie la plus difficile du jeu.
Je vous posais la question de savoir si vous auriez aimé être une femme, parce que la chanteuse Guédré, elle, aimerait pisser debout comme les hommes.
Si j'avais des poils sur le torse, si dans mon jean ça faisait une bosse, si j'avais du poil au menton, mais pas comme Susan Boyle, non, comme un garçon. Si mes poils sous les bras étaient acceptés, s'ils étaient un gage de ma sexualité, dans ma vie j'aurais beaucoup moins d'embrouilles. Si aussi j'avais des couilles, ouh, 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 j'aimerais pouvoir pisser debout.
Pisser debout dans une version live chantée ici et dans l'une des toutes dernières de Taratata sur France 2 en mars 2013. Bonjour Guédré.
Bonjour. Ah.
Bonjour. Je vais vous laisser dialoguer. Pourquoi vous vouliez dialoguer avec Guédré,
C'est une découverte récente et je dois avouer que c'était un choc. Je me suis dit, justement, elle a des couilles. Elle ose vraiment ce que personne n'ose faire, c'est-à-dire aller très très loin dans l'humour et prendre des risques. J'aime bien les gens qui justement sont à la limite de l'acceptable, mais là, je trouve elle très très courageuse. Donc, je suis admiratif. Bravo.
Je vous renvoie vos compliments, c'est très gentil. Merci, bonjour, enchantée, comment allez-vous?
Comment se passe l'accueil de cette chanson qui effectivement est quand même particulière, une belle critique satirique des hommes en quelque sorte, parce que vous dites que vous aimeriez pisser debout, mais c'est quand même une critique de l'homme, non?
Oui, mais après, nous, on a des avantages aussi. Parfois, quand on montre ses seins, on ne paye pas les PV, donc c'est pratique aussi, quoi. Voilà. Je veux dire, il y a des avantages partout. Hein. Je ne veux pas faire de discrimination, évidemment.
Non, mais elle a créé un personnage extraordinaire. Donc, du coup, j'ai vu les clips sur Internet et je trouve que vraiment, vous faites un travail de salubrité publique. Je me rappelle, il y a un de vos clips qui s'appelle « Toutes des putes ». Et je me suis dit que c'était la meilleure manière de moucher tous les machistes, c'est de dire « Ah bon, bah, vous voulez nous insulter ? Ben, très bien, on assume l'insulte et on va encore plus loin que vous. » Et c'est un peu comme le judo, c'est-à-dire plutôt que de bloquer l'énergie agressive, on l'accompagne et on montre qu'elle ne nous gêne pas. Et je trouvais que c'était très, très bien fait. Bravo.
Oh bah je vous remercie et je passerai le message à ma maman que j'ai bien sûr fait figurer dans le clip. Parce que je pense qu'elle avait vraiment sa place.
C'était votre ambition de créer un tel univers satirique ?
Non,
vous êtes comédienne à la base, hein ?
Oui, c'est ça. Et donc, en fait, je crois que ma plus grande chance, c'est de n'avoir eu absolument aucune ambition. Parce que moi, j'écrivais mes chansons dans mon coin et de temps en temps, j'allais les chanter dans un bistrot pour faire le chapeau, quoi. Et j'ai jamais eu aucune autre ambition que juste celle-ci. Et après, voilà, les concerts, les albums, tout ça, ça m'est un peu tombé dessus. Donc, je pense que ma grande chance, c'était que j'attendais rien du tout et que je faisais juste ce que je voulais. Et apparemment, c'était ça.
C'est un peu trash, hein, quand même. Par moments, on sent que vous amusez à provoquer les gens.
Bah, c'est bien moins trash que la vraie vie, quand même. Finalement.
Ah non, mais elle a un humour extraordinaire. Et puis, l'écriture, parce que moi, je vois au niveau des paroles, il faut les balancer, les trucs, il faut les écrire. Et puis, il y a une dramaturgie, il y a une histoire avec un nain, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait, Jacques le Nain.
Ah oui, Jackie le Nain. Oui, c'est une bande de... La bande à Jackie, c'est une bande d'handicapés qui ne peuvent pas avoir des rapports sexuels parce que, bah, évidemment, personne ne veut coucher avec un homme tronc. Donc, ils essayent d'aller voir les putes, mais même les putes, elles ne veulent pas d'eux. Et tout ça. C'est super triste, mais c'est plein d'amour quand même.
Ce n'est pas politiquement correct, hein. Il faut peut-être avertir les gens qui vont vous découvrir.
Bon, on va guider à découvrir. En tournée tout l'été, vous serez vendredi, donc après-demain à Enghien, samedi à Tarnos, dimanche à La Rochelle. On a toutes les dates sur votre site guider.fr. Merci.
Oui, merci beaucoup. Merci.
Quelques minutes avec Bernard Werber. Bernard Werber, dans votre dernier roman, on découvre un jeu d'échecs heptagonal pour 7 personnes.
Alors moi, j'ai pour 7 camps.
Sept camps différents, oui. Enfin, j'ai pas tout compris. Hein. Je vais vous expliquer.
C'est très simple. Il y a 7 voies du futur possibles, enfin, telles que le présente un de mes personnages. En gros, c'est le système capitaliste, hein, toujours plus de consommation. C'est le camp des blancs. Ensuite, le système de la religion, c'est les verts. Toujours plus de Dieu, tout vient de Dieu et tout ramène à Dieu. Après, il y a le camp des bleus, c'est tout ce qui est les geeks, les ordinateurs, les robots. Après, il y a les rouges, c'est les femmes. Après, il y a les jaunes, c'est les vieux. Après, il y a les mauves, c'est justement ceux qui réduisent de taille. Et enfin, il y a les noirs, c'est ceux qui pensent que l'avenir de l'humanité est en dehors de la Terre. Donc, c'est ce que je dis, c'est qu'actuellement, tout ce qui se passe dans l'actualité, c'est le choc de ces 7 utopies. C'est-à-dire ceux qui pensent que l'avenir appartient aux femmes, ceux qui pensent que l'avenir c'est l'espace, ou ceux qui pensent que l'avenir c'est les robots. Et que tout ce qu'on voit, toutes ces guerres, tous ces conflits, ces trucs de bourse et tout ça, c'est juste des camps, comme dans un jeu d'échecs, qui placent leurs pièces pour essayer de devenir la voie du futur.
Sauf qu'à l'arrivée, elles se trouvent toutes
en choc, mais par moments, il y a des alliances.
Quand même, hein.
Oui, c'est pour ça que c'est un jeu d'échecs. Mais c'est tout le principe de Troisième Humanité, c'est que notre prochaine humanité va naître du choc de toutes les visions de futur. Et il y a les gens qui seront les spectateurs qui se laisseront porter. Et puis il y a ceux qui essaient de faire bouger le jeu dans leur intérêt.
Vous êtes très, très jeu. Hein. On se rappelle que vous avez été invité par Eric-Antoine le magicien.
Oui.
Vous l'aviez invité à un loup-garou chez vous. Alors, le loup-garou,
c'est demain.
Je sais pas ce que...
c'est demain. Demain. On le fait demain chez moi.
Il sera là ?
Oui, bah, il va tester ça. Bon. Mais l'avantage du jeu, c'est que tout d'un coup, on se débranche de la vie et on regarde les choses avec distance. Mais même un roman, pour moi, un bon roman, c'est quelque chose qui propose au lecteur, tiens, viens jouer avec moi, je vais t'amener dans une aventure et voyons comment tu vas... Est-ce que tu vas deviner la fin avant moi ? Voilà.
Pourquoi sortez-vous toujours vos livres en octobre ? Parce que vous privez du concours, là,
chaque fois. C'est pour être sûr de ne pas avoir de prix littéraire.
C'est vrai ?
Non, c'est aussi parce que ça me rappelle que je dois rendre le livre à l'époque de ma date de naissance. Je suis né le 18 septembre. En général, j'ai le livre qui m'arrive le 18 septembre.
Vous êtes superstitieux à ce point-là ?
Non, mais je n'ai pas de mémoire à ce point-là. Donc...
Alors, voilà. Roman, nouvelle, BD, théâtre, cinéma, vous ne vous interdisez rien en écriture ?
mon métier, c'est raconteur d'histoire. Après, je peux raconter une histoire d'un clip vidéo, je peux raconter une histoire d'un film, je peux raconter l'histoire d'une pièce de théâtre. Dès le moment où j'ai le moteur, savoir mes personnages, la problématique et la manière complètement surprenante de terminer l'histoire, en fait, j'ai tout. Donc, pour moi, une nouvelle, c'est juste du sirop, je rajoute de l'eau, ça donne un roman. Mais un bon roman doit fonctionner déjà comme une nouvelle, à savoir une problématique surprenante et une fin qui va laisser le lecteur, spectateur, dans un état de jubilation et en même temps d'étonnement. Et c'est cet état que je recherche. Je crois qu'un bon livre est quelque chose qui vous donne l'impression que vous avez vécu quelque chose de fort et qui vous a surpris. La première politesse d'un bon écrivain est de surprendre.
Et vous êtes même capable d'écrire des chansons comme celle-ci pour Louis Bertignac, la saga des Gnous.
Il se tenait sur ses pattes en travers de la rue. S'était arrêté, personne ne bougeait plus. Quand d'autres à côté s'en tournaient la tête, se sont approchés pour faire un grand troupeau de gnous. Et des milliers marchaient devant le cou. Puis la terre se mit à trembler, le jour devint la nuit.
Ah, la terre, elle est encore là, la terre, dans la saga des gnous. Comment vous est venue cette idée? Alors, c'est vous qui l'avez proposée? C'est lui qui vous a commandé?
On avait dîné ensemble, j'avais un peu bu, il avait un peu bu. Et j'ai dit, chiche, que je t'écris un truc très rapidement, comme ça, au déboté. Et j'ai dû l'écrire en 10 minutes. Et puis lui, après, il est arrivé à mettre une musique dessus, à faire vivre le truc. Mais c'est un instant, c'est une rencontre. Louis Bertignac est quelqu'un de très tourné vers la spiritualité. Nous avons des grandes conversations sur le passé, le présent et
la réincarnation.
Les techniques de méditation. Oui, c'est vraiment passionnant.
Vous êtes à votre combienième vie, vous, Bernard Verbier?
Alors, selon la dernière médium que j'avais vue, j'en étais à la 111e. Mais elle m'a dit, il n'y a eu que 10 de vraiment intéressantes. Et vous êtes dans l'une des intéressantes. Donc, je suis très content d'être là, ici et maintenant.
En attendant le prochain, donc au mois d'octobre, le titre du prochain?
La Voix de la Terre. Donc,
la Voix de la Terre.
Depuis hier, c'est vraiment tout frais.
Scoop pour France Info, La Voix de la Terre. Ça sera le troisième tome de la saga, Troisième Humanité. Et le second, qui est toujours en librairie, s'appelle Les Micro-Humains, chez Albin Michel. Merci, Bernard Verbier.
Merci à vous, Bernard.
Cette émission est à télécharger sur tous les sites de podcast. Vous pouvez aussi la réécouter sur franceinfo.fr. Demain, je recevrai le flûtiste Philippe Bernold.